France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Dans ses mémoires, le compositeur André Gretry constate que la musique ne saurait dire « Venez demain dîner avec moi chez mon restaurateur ». Affirmation qu'on ne saurait contester. Les notes de musique ne sont pas des paroles. Mais quand nous écoutons les quatre saisons de Vivaldi, nous entendons le gargouillement des fontaines, l'aboiement du chien, le grondement de l'orage comme autant d'images sonores. Que penser alors du talent évocateur, des facultés d'imitation et, plus généralement, du pouvoir expressif de la musique? C'est ce à quoi nous invite à réfléchir Christian Akaoui, mon invité, dans un ouvrage absolument passionnant où l'on croise Monteverdi, Wagner, Debussy, Stravinsky. Leur musique et les commentaires qu'elles ont suscités nous apprennent autant sur la réception d'une œuvre d'art que sur notre façon d'écouter. La musique parle, la musique peint, les voix de l'imitation et de la référence dans l'art des sons, tome 1 Histoire, de Christian Akaoui, aux éditions du Conservatoire. Patricia Quella, soprano, les English Baroque Soloists, dirigé par John Elliott Gardiner, c'était un extrait de l'Allegro il Penseroso et il Moderato de Hendel. Bonjour Christian Akaoui.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 8 et professeur d'esthétique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et l'auteur de ce livre, donc le premier tome de ce livre consacré à la musique, à l'art des sons, à la façon dont la musique peut peindre ou parler. Il y avait dans cette ère de Hendel l'évocation d'un oiseau, effectivement avec la flûte, tout le monde a pu l'entendre et s'en rendre compte. Votre livre commence par une citation d'un certain Anton Böhmetz-Rieder qui dit « Toute musique qui ne peint ni ne parle est mauvaise ». C'était écrit en 1770-71. C'est le point de départ de votre réflexion sur la capacité, le pouvoir expressif de la musique.
Oui, la musique parle, la musique peint, c'est une évidence aux yeux et aux oreilles des auditeurs du XVIIe et du XVIIIe siècle. Pour la bonne raison que la musique à cette époque est imitation, elle est représentative, et donc elle doit peindre, elle doit dire des choses. C'est très différent après 1800.
Il y a un basculement, oui, et on y reviendra après. Alors, c'est le pouvoir imitatif de la musique, il vient de l'Antiquité en fait. On le sait, le but de l'art, c'était d'imiter la nature.
Oui.
On lit ça dans Aristote, par exemple.
Oui, et tous les traités, à peu près entre 1600 et 1800, le disent. Alors, la musique parle, il y a deux raisons à cela. La proximité de la musique avec la rhétorique. La musique est comparée à cette époque à un discours, et le musicien, le compositeur et même l'exécutant est comparé à un rhéteur.
C'est-à-dire pour cela, donc, il doit utiliser les techniques de l'art oratoire pour finalement convaincre son auditoire, c'est cela ?
Oui. Du reste, les traités de rhétorique eux-mêmes réfèrent à la musique. Ils disent les uns et les autres qu'ils cèdent de l'autre discipline.
Ouais.
Et donc, le musicien doit se rapprocher des tons de l'orateur, de ses accents et de ses gestes. La seconde raison pour laquelle la musique parle, c'est que elle est proche de la littérature. Voilà. Alors là, il ne s'agit plus de faire un beau discours. Il s'agit de raconter une histoire.
Une histoire. Donc avec un début, un milieu, une fin.
Voilà. Ouais. Et là, il y a une différence importante entre la musique instrumentale et la musique vocale. Entre 1600 et 1800, les gens préfèrent de beaucoup la musique vocale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un texte, il y a des mots. Et dans la mesure où il y a un texte et des mots, bien, la musique, elle parle. Et dans la mesure où il y a un texte et des mots, la musique, elle peut raconter des histoires. D'où l'opéra, d'où les genres influencé par l'opéra, la cantate,
l'oratorio,
etc.
Mmh. Mais est-ce que ça signifie, Christian Akaoui, que dans cette période qui va, on va dire, de la fin de la Renaissance, vers les années 1550, jusqu'à à peu près à la fin du XVIIIe siècle, la musique sera essentiellement assujettie à un texte, à un substrat littéraire, où la musique instrumentale va commencer seulement à prendre son autonomie vers la fin du XVIIIe siècle.
Alors, la musique va prendre son autonomie très progressivement à partir de la fin du XVIIe siècle, mais elle n'intéresse pas encore beaucoup. Un compositeur comme Corelli n'a composé pratiquement que de la musique instrumentale, et c'était un des très grands compositeurs de son époque. C'est à peu près vers 1680-1700, mais il faut attendre au fond la seconde moitié du XVIIIe siècle pour que la musique instrumentale devienne aussi importante et qu'elle plaise autant que la musique vocale. Il y a dans les traités des phrases très fortes. Hein. On dit en 1730 encore que la musique instrumentale n'a qu'une demi-vie, n'est-ce pas ? C'est très... et que, au fond, elle n'est pas très intéressante. Voilà. La musique instrumentale, elle sert à cette époque-là à la danse, elle sert éventuellement à la fonction rituelle, mais ça ne va pas beaucoup plus loin.
Non parar, non puritar, ti voglio confort, ne qui de senza parte. Nun, dann, neu, toll, jor, wie, jor, je, jor, skar, si. Toglie l'ombra il furor, l'uso dell'arte. Oh, delle spade, orribilmente urtarsi a mezzo il ferro che il piede ormai non parte, sempre più fermo, e non sempre in cuoco, né scende taglio in pan, né punta
l'uomo. No, ti ritrasegna la vendetta, e la vendetta vuole vendetta volontà rinnova, onde sempre per la fretta, stimo nuovo si aggiunge piaga nuova, d'ori in orchio si vece più ristretta, se con la pugna che spada d'argia giova, dazzi con pomi imperoriti e crudi, pozza colghe il insieme con gli scudi, tre volte il cavaliere la donna stride con le robuste braccia e altrettante poi Dove noi tenaci, e la si scinge nodi di pierre vivo e l'ombra. Torna al ferro, e nell'altro tiglia di volto.
Roberto Abbondanza, le concerto italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini, c'était un extrait du combat de Tancrède de Claudio Monteverdi. Christian Akaoui, vous consacrez un chapitre d'ailleurs entier à ce prodigieux combat de Tancrède, 20 minutes d'une musique absolument stupéfiante de Monteverdi. Même si on ne connaît pas, si on n'a pas le texte sous les yeux, si on ne sait pas exactement de quoi il retourne, on comprend quand même qu'il se passe une action un peu violente, passablement violente. En fait, là, Monteverdi met en musique le bruit des épées, le combat entre ces deux chevaliers, combat sans merci et sanglant. Un des objets de la musique est d'exciter. Les passions, c'est ce que dit Descartes dans son compendium de 1619. Sa fin est d'émouvoir en nous des passions variées. Pour cela, le compositeur donc peut recourir à toute une panoplie d'instruments, ce qu'on appelle les madrigalismes, en jouant aussi bien du tempo, mais de figures rhétoriques musicales. Comment est-ce que à cette époque, le compositeur pense justement à mettre en image, en son imagé, j'ai envie de dire, ce texte, par exemple, ce combat de Tancrède, comment est-ce que Monteverdi procède ?
Le combat, c'est d'abord la colère, la rage. Donc, la passion qu'il veut mettre en scène ici, c'est la colère, voire la haine. Et donc, il utilise toute une série de choses. Quand on est en colère, en général, on parle très haut, on ne parle pas bas. Il utilise aussi le trémolo. C'est très curieux parce que Monteverdi a inventé le trémolo. Il a inventé le trémolo non pas parce que c'était un nouveau timbre ou parce que c'était une forme non utilisée jusqu'alors. Il l'a inventé pour rendre compte de la colère. Et il nomme ça un stile, le stile concitato. Ouais. C'est-à-dire que on se rend compte à quel point cette musique que l'on vient d'entendre, elle peint le choc des épées, voilà. Et non seulement elle peint ce qui se passe, mais elle peint aussi les passions qui vont avec. Les deux choses sont liées. Rousseau dit une chose très belle sur ça. Il dit le musicien peint les choses, mais aussi il substitue aux choses qu'il peint les sentiments que l'on a devant le spectacle de ces choses que l'on peint. Ça, les deux choses vont, toutes les deux sont liées. La musique parle, la musique peint, et la musique exprime des passions.
Et ce style les concitato, qui est ce style agité, on peut essayer de traduire, on le ressent effectivement, vous l'avez dit, avec cette voix qui est haut, plutôt haut perché, qui parle fort, ces rythmes extrêmement passionné, agité, ouais, toute cette panoplie à laquelle recourt Monteverdi.
Les pizzicati des violons, enfin les. Ouais. À peu près à chaque vers, vous avez là-dedans un madrigalisme. Ouais. À chaque vers.
Donc, ça veut dire qu'à chaque vers, la musique doit être un peu quand même soumise aux impératifs du texte.
Absolument. Ouais. D'ailleurs, les gens de l'époque, ils écoutent la musique, ils écoutent pas du tout comme nous. Nous, on peut écouter un lead en langue étrangère et en tirer un certain plaisir. Eux, ils écoutent d'abord le texte et ils écoutent, en même temps qu'ils écoutent le texte, ils écoutent comment la musique mime le texte. Mmh. Voilà. C'est une écoute, une forme d'écoute qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre.
Ouais. C'est-à-dire que donc ce phénomène d'écoute tel que vous venez de la décrire, Christian Akaoui, elle perdure jusqu'à à peu près la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est ça? Presque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle?
Oui, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ça dépend. En France, en Italie, ça dure plus longtemps. En Allemagne, un peu avant 1800, on a inventé la musique pure. Voilà. Et là, on change complètement de représentation de la musique. La musique instrumentale devient plus importante que la musique vocale, parce que la musique dit des choses que les mots ne disent pas. Voilà. Ce que Hoffmann va dire vers 1808, mais ce que Ludwig Tieck dit aussi vers la fin du XVIIIe siècle, c'est que la musique dit des choses que les mots ne disent pas et transporte l'homme vers des sentiments qui sont de l'ordre de l'ineffable. Autrement dit, la musique devient plus riche, plus intéressante quand elle est autonome, quand elle abandonne sa liaison avec les mots.
Est-ce que ça veut dire que la musique, qui jusqu'alors pouvait être assimilée à un artisanat, devient vraiment là œuvre d'art?
Je ne dirais pas ça. Je pense que la musique de Monteverdi, ce sont des œuvres d'art
complètes. Oui, bien sûr.
Non. Je pense que c'est simplement que l'art change complètement de régime. Ouais. C'est complètement autre chose. Voilà.
Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab. Die ganze Welt ist mir vergelt. Mein armer Kopf ist mir.
Thank you.
Christa Ludwig, accompagné par Geoffrey Parsons au piano, c'était Marguerite au rouet de Franz Schubert. Christian Akawi, on a bien compris qu'avec les romantiques, la musique instrumentale prenait de plus en plus d'importance. On pense évidemment à des compositeurs comme Schubert, mais aussi Beethoven, bien sûr, avec ses sonates, ses symphonies, l'Équateur. Vous avez cité Hoffmann qui disait que la symphonie était l'opéra des instruments. Alors là, on vient d'entendre de la musique vocale par un compositeur romantique. On a bien compris qu'il y avait derrière un côté illustratif, mais l'illustration avait changé. Là, ce qu'on entend en permanence, cette espèce de mouvement perpétuel, évidemment, c'est le rouet. Mais ce n'est pas exactement ce que raconte le texte de ce lead.
Oui. Ouais. Oui. À l'époque de Monteverdi, on suit chaque mot, en quelque sorte. Alors, on ne suit pas tous les mots, bien sûr, mais on suit tous les mots qui peuvent être illustrés par musique. Les romantiques vont avoir une vision plus synthétique. Là, on entend d'un bout à l'autre le ta-la-da-da-da-da-da-da-da-da-da. On l'entend d'un bout à l'autre parce que pour Schubert, c'est l'image fondamentale et c'est ça qui compte. Il y a une chose qui est sûre dans cette première phase de la musique pure. À peu près tous les gens qui aiment cette musique pure disent que la peinture, elle est proscrite. La musique ne doit plus imiter. Alors en fait, bien sûr, dans la musique instrumentale, la musique n'imite plus. Mais dans la musique vocale, ce n'est pas vrai. Et c'est là où j'apporte, je pense, des choses vraiment... le centre de mon livre, c'est ça. Ce sont toutes les survivances de la peinture et de ce que la musique va représenter au 19e et même au 20e siècle, et même dans les avant-gardes.
Voilà. On a ça aussi, comme Christian Akawi, dans la musique instrumentale. Vous l'évoquez d'ailleurs dans les poèmes symphoniques. Là, il n'y a pas de parole, mais il y a quand même derrière des images, ou au moins un argument.
Absolument. Le poème symphonique au 19e siècle ramène de manière, hypocrite.
Oui, c'est ça.
le texte. Parce que le texte n'apparaît plus. On entend de la musique instrumentale. Oui. Mais il est quand même là. Il est à la fois là et il n'est pas là. Et c'est vraiment
C'est une façon un peu de biaiser quand même le concept de musique pure.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y aura une série de polémiques tout au long du 19e et même du 20e siècle entre ceux qui veulent que la musique soit pure et ceux qui mettent de l'impureté, n'est-ce pas ? L'impureté dans la musique pure, c'est le fait qu'il y ait des mots. Voilà. Quand on dit « je prends un whisky pur », c'est un whisky sans eau. La musique pure, c'est la musique sans les mots. Et le 19e siècle, en fait, s'ingénie à ramener ça.
Thank you.
Le London Sinfonietta dirigé par Esa-Pekka Salonen, c'était le début de la symphonie d'instruments à vent d'Igor Stravinsky. Christian Akawi, donc nous sommes dans les années 20, enfin,
oui, 20-30.
C'est le tournant, un nouveau tournant pour l'esthétique musicale, nous apprenez-vous. Là, on a quitté la musique pure, là on est dans ce que vous appelez la pure musique, c'est ça?
On va vers la pure musique.
C'est-à-dire que là, c'est vrai, bien malin pour être qui pourrait dire ce qu'exprime, ce que représente cette musique, qui a l'air là totalement abstraite.
Oui. Et alors, la nouvelle étape, c'est que au XIXe siècle, l'imitation était proscrite, la peinture était proscrite, et en même temps, les compositeurs ont continué à peindre. Là, la nouvelle étape, c'est que l'expression est proscrite. Je voudrais citer Stravinsky qui dit « Je considère la musique impuissante à exprimer quoi que ce soit. » Or, la musique qu'on vient d'entendre, à l'évidence, elle est expressive. Alors, ça dépend ce qu'on entend par expression. Je pense que Stravinsky entendait par expression, expression romantique, douloureuse, etc. Et cette musique, elle est expressive, elle exprime la solennité, l'austérité, le hiératisme, elle est à la mémoire de
Debussy.
Debussy, ouais. Voilà.
Ouais. Mais ça fait partie de cette génération qui, dans les années 20, fuyait en fait le pathos romantique.
Oui,
c'est ça. C'était ça l'objet de cette musique. Ouais.
Donc c'est la seconde phase, et la troisième phase, elle vient dans les années 50, où là, il y a une radicalisation, et dans mon livre, je montre que, à côté des affirmations théoriques comme quoi la musique ne peint pas, ne doit rien exprimer, les musiques après les années 50 ont continué à peindre et à parler.
Voilà. Très bien, merci beaucoup Christian Akawi. Je rappelle le titre de votre livre « La musique parle, la musique peint, les voies de l'imitation et de la référence dans l'art des sons ». C'est le premier tome, le deuxième tome, c'est pour quand courant de cette année
Avant la fin de cette année.
Aux éditions donc du Conservatoire. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Fabien Capel, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.